Le journal Maria Melkurdi, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous. Des larmes, de la colère et des slogans anti-Amérique en Irak. Funérailles grandioses pour le général Soleimani, tué dans la nuit de jeudi à vendredi dans un raid américain. Les autorités iraniennes appellent à la vengeance. Quelle forme celle-ci pourrait-elle prendre? Nous le verrons dans ce journal. Au sommaire également, l'Australie continue de brûler. Le pays doit revoir sa politique environnementale, estime un spécialiste ce soir. Rebondissement ce soir dans l'enquête sur l'attaque au couteau à Villejuif dans le Val-de-Marne. Le parquet antiterroriste pourrait être saisi, nous verrons pourquoi. Des manifestations contre la réforme des retraites, nous irons dans le cortège parisien. Enfin, ma vie connectée avec Christine Siméon, on parlera des youtubeurs en vogue pour 2020.
France Inter.
Une foule en deuil en Irak aujourd'hui. Des milliers de personnes, toutes vêtues de noir, présentes aux funérailles du général Qassem Soleimani, tué avant-hier dans un raid américain. Cortège marqué par des slogans appelant à la vengeance du général, figure majeure des gardiens de la Révolution. Phrases beaucoup entendues dans la rue, mort à l'Amérique, à Bagdad, point de départ du cortège funéraire. Mais aussi à Kerbala et à Najaf, ville sainte chiite irakienne. La procession funéraire va encore durer 3 jours, tout comme le deuil national décrété par l'Ayatollah Khamenei. Le cercueil du général sera acheminé demain en Iran, d'abord à Mechhed, ville sainte chiite iranienne, puis à Téhéran et enfin à Kerman dans le sud-est du pays, où le chef militaire doit être enterré mardi. Des funérailles grandioses donc pour un homme qui était très populaire. L'occasion de crier haut et fort la colère contre l'Amérique pour les Iraniens et pour les Irakiens. Les autorités iraniennes ont appelé à la vengeance contre les États-Unis. Christian Chéneau, bonsoir.
Bonsoir.
Quelle forme pourrait prendre cette vengeance?
Vous savez Marianne, les Iraniens ne sont pas du genre à répondre à chaud et dans la précipitation. Ils savent pertinemment que Donald Trump n'attend qu'un acte de surenchère pour leur infliger une réponse militaire encore plus douloureuse. La République islamique est tout sauf un régime suicidaire. L'Iran va donc prendre son temps pour examiner les modalités de ses représailles. La vengeance sera faite au bon moment et au bon endroit, a promis Téhéran, qui a l'embarras du choix des objectifs. Mais l'Iran voudra sans doute opérer dans l'ombre pour ne pas être impliqué directement, c'est-à-dire agir via ses alliés locaux, avec le Hezbollah au Liban, avec les Houthis au Yémen, mais surtout avec les milices chiites irakiennes chauffées à blanc depuis l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad. Des tirs de roquettes contre des bases américaines en Irak sont à craindre. 2 ont d'ailleurs visé aujourd'hui une base aérienne au nord de Bagdad et 2 obus de mortier sont tombés dans la zone verte. Les 5200 soldats américains stationnés dans le pays sont autant de cibles potentielles. Bref, l'Iran pourrait sous-traiter à d'autres sa vengeance.
Merci Christian Chéneau pour France Inter. Alors Donald Trump joue-t-il avec le feu? Ce qui est sûr, c'est que l'élimination du général Soleimani est une décision prise et voulue par les États-Unis seuls. Les Américains n'ont que très peu de soutien à l'international. À l'exception d'Israël, la majorité des dirigeants mondiaux ont exprimé leur inquiétude et appellent à la retenue. C'est le cas notamment des Français, des Allemands, des Britanniques, mais aussi aujourd'hui de la Chine. Pékin exhorte les États-Unis à ne pas abuser de la force. L'attitude américaine est perçue comme dangereuse par beaucoup. À qui profite-t-elle? Y a-t-il une stratégie américaine, une stratégie du président et candidat Trump à moins d'un an de la présidentielle aux États-Unis? Correspondance et éclairage aux États-Unis avec Loïc Loury.
Donald Trump n'aura même pas attendu son propre retour de vacances. Qassem Soleimani a été abattu au deuxième jour de cette année électorale et cela, bien sûr, n'a rien d'anodin. La Maison-Blanche, en effet, se prépare à un procès en destitution. Les démocrates, eux, s'avancent vers leur primaire. Tout cela, donc, balayé par un événement d'une portée rarissime. C'est sans doute le pari le plus important de sa présidence, dit d'ailleurs The Hill, influent site d'information politique. Mais pour Donald Trump, ce coup de poker se fait aussi au prix de contradictions. Le président a toujours affirmé notamment vouloir rapatrier ses troupes et mettre un terme aux guerres sans fin. Ironie suprême, il l'accusait aussi en 2011 Barack Obama de chercher la confrontation avec l'Iran pour favoriser sa réélection. Reste à savoir si Donald Trump, chef de guerre, contrôlera la descente, lui qui s'est débarrassé de ses conseillers les plus modérés et ne dispose pas, selon toute vraisemblance, d'un plan précis pour la suite des événements. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et conséquences directes et immédiates de l'attaque américaine, outre ces tirs de roquettes dont on a parlé tout à l'heure avec Christian Chéneau, l'OTAN suspend ses missions d'entraînement en Irak. La coalition internationale anti-Daesh réduit ses opérations sur le terrain. terrain irakien également. C'est dû à la crainte pour la sécurité des ressortissants occidentaux dans le pays. Les djihadistes très actifs au Proche et Moyen-Orient, mais aussi au Sahel, où régulièrement des attaques terroristes sont menées. La cible probable aujourd'hui, le Burkina Faso. 14 personnes tuées dans le nord-ouest du pays, près de la frontière malienne, dans une attaque à l'explosif. La plupart des victimes sont des collégiens qui rentraient de vacances, des vacances de Noël. Leur car a roulé sur un engin explosif placé sur la route. Attaque non revendiquée pour l'instant, mais depuis 2015, le pays est régulièrement confronté aux violences djihadistes. Conséquence, en 4 ans, plus de 750 morts et plus de 500 000 déplacés selon l'ONU. Le mystère, toujours autour de la fuite de Carlos Ghosn. Comment l'ex-patron de Renault et Nissan a pu quitter le Japon et se rendre au Liban alors qu'il était en résidence surveillée à Tokyo? Selon Ankara, deux étrangers étaient impliqués dans le transit de Carlos Ghosn via Istanbul. Déclaration du ministre turc de la Justice, mais qui ne donne pas de détails sur leur nationalité ni leur rôle exact. Des dizaines de milliers d'Australiens évacués de leur domicile pour fuir les feux de forêt. Des incendies aggravés par des conditions météorologiques catastrophiques. Des températures dépassant les 40 degrés, des vents violents, situation inédite dans le pays, dans un pays pourtant habitué à des phénomènes extrêmes. Situation en grande partie due au réchauffement climatique. Selon Sébastien Treyer, il est directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales. L'Australie fait partie des pays climato-sceptiques qui, comme le Brésil ou les États-Unis, ont bloqué l'avancée des discussions lors de la COP25. Pour Sébastien Treyer, le gouvernement australien a grand intérêt à changer rapidement sa politique.
Effectivement, on a un gouvernement australien qui joue vraiment la carte de ne pas lutter contre le changement climatique. L'Australie est le premier exportateur mondial de charbon. Sa propre production électrique dépend à 60% du charbon. Et on voit un gouvernement qui n'est pas du tout enclin à faire des efforts de ce côté-là. En même temps, je pense qu'il ne s'agit pas de culpabiliser le gouvernement australien pour cette chose-là. Et moi, je pense que c'est surtout, il faut voir que c'est une crise absolument terrible pour l'ensemble des Australiens aujourd'hui. Et que c'est surtout un symbole du fait que si on n'agit pas contre le changement climatique, ces phénomènes vont se répéter et se multiplier sur la planète. On se souvient de l'ouragan Sandy à New York en 2012, où on voyait une des plus grandes métropoles du monde, où il y a le grand centre financier de la planète, qui n'était pas non plus capable de faire face aux événements climatiques extrêmes. Et donc je pense qu'il faut vraiment essayer d'utiliser cette catastrophe pour faire comprendre que c'est ça la crise climatique, cette accumulation d'événements extrêmes. Et j'espère que des acteurs australiens sauront s'en saisir pour faire entendre raison à leur propre gouvernement.
Conséquence de ces incendies qui durent depuis le mois de septembre, plus de 23 morts, près de 1500 maisons réduites en cendres. L'état d'urgence a été décrété dans le sud-est de l'Australie. Les fumées des incendies de forêt en Australie ont atteint la Nouvelle-Zélande, pourtant située à des milliers de kilomètres. Le glacier Franz Josef a pris une coloration ocre en raison des fumées. Les images circulent sur les réseaux sociaux. Sans doute là aussi une conséquence du dérèglement du climat, des inondations meurtrières en Indonésie dans la région de Jakarta. Plus de 60 morts selon les autorités. Des dizaines de milliers d'habitants désormais sans abri. Chez Amazon aux États-Unis, il ne fait visiblement pas bon de dénoncer la politique environnementale de l'entreprise. D'après le Washington Post, des employés qui dénoncent le rôle du géant du commerce en ligne dans la crise climatique subissent des pressions. Certains ont reçu des menaces de licenciement.
France Inter. Maria Melchiordi.
On en sait un peu plus ce soir sur le profil de l'auteur de l'attaque au couteau hier à Villejuif dans le Val-de-Marne. La procureure de Créteil vient de tenir une conférence de presse. Selon elle, l'assaillant s'était converti à l'islam il y a 2 ans et demi. Des témoins racontent l'avoir entendu crier « Allahu Akbar ». On apprend aussi que l'agresseur a épargné un passant qui se disait être musulman et à qui l'assaillant a demandé de réciter une prière en arabe. Ses proches décrivent aussi une personne aux troubles psychiatriques depuis longtemps. Précision avec la procureure de Créteil, Laure Becchio.
Ce parcours était un parcours d'une extrême violence, d'une extrême détermination. Quand on a les témoignages et quand on les lit, les gens sont frappés par un calme apparent de l'intéressé. Également, lorsqu'il est confronté aux forces de l'ordre, il ne s'interrompt pas et il se livre à des gestes qui ont pu laisser penser qu'il était porteur d'une ceinture d'explosifs, ce qui explique que la zone a été neutralisée pendant de longues heures pour permettre aux artificiers d'intervenir par la voie d'un robot pour s'assurer que ces explosifs n'étaient pas détenus par le mis en cause. Et son parcours, tel qu'il a pu être décrit par ses proches, sa maman fait état d'un suivi psychiatrique qui commence à l'âge de 5 ans. Il est suivi par de multiples médecins psychiatres. Il fait l'objet de plusieurs hospitalisations, dont certaines à la demande de ses parents. et il sort du dernier établissement psychiatrique qu'il fréquente en mai 2019. Il est alors soumis à un traitement médicamenteux qu'il va interrompre en juin 2019.
Et toujours selon la procureure de Créteil, il n'est pas du tout à exclure que le parquet antiterroriste se saisisse de l'enquête. Des milliers de personnes dans la rue aujourd'hui un peu partout en France. Manifestation contre la réforme des retraites alors que la grève dure depuis un mois maintenant. Dans les cortèges, des enseignants, des cheminots, des blouses blanches. À Paris, les manifestants sont partis de la gare de Lyon, les ont défilés jusqu'à la gare de l'Est. Rémi Brancato, bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez dans le cortège, vous avez rencontré des manifestants certes en colère, mais satisfait d'avoir réussi à maintenir le mouvement malgré les fêtes de fin d'année.
Oui, ils sont plusieurs milliers à battre le pavé parisien avec des gilets jaunes en tête de cortège, suivis par les syndicats de cheminots surtout et de la RATP. Ahmed Béral est représentant CGT au dépôt de bus de Pantin, tout près de Paris.
À la fin du mois de janvier, on aura une paye à zéro. On n'est plus à un salaire ou un deuxième salaire près. Parce qu'on sait que la retraite à points, si elle passe, on perdra à long terme. Dans les dépôts RATP, que ce soit au métro ou RER, ça tient le coup.
Car ce que retiennent les manifestants, malgré un cortège plus modeste, c'est que la grève a duré un mois déjà. Pas de trêve pendant les vacances pour Sophie, enseignante à Montreuil, d'autant plus énervée depuis les vœux du chef de l'État.
Les vœux d'Emmanuel Macron n'ont pas du tout apaisé les choses. Il est complètement dans le déni, il veut mener la réforme jusqu'à son terme. Les gens sont de plus en plus en colère.
Alors c'est vrai, reconnaît Mohamed Bourouzen de l'UNSA RATP. Certains de ses collègues ont dû reprendre le travail pendant les fêtes. Mais pour lui, le mouvement va rebondir dès lundi.
Quand vous êtes à 32 jours ou 33 jours de grève aujourd'hui, c'est compliqué. J'espère que dans la fonction publique, ils vont commencer à nous rejoindre. Déjà, il y a la reprise, donc ça va être quelque chose d'important. On a un seul et unique objectif aujourd'hui. C'est de stopper cette réforme.
Et tout s'appelle aussi les salariés du secteur privé à rejoindre le mouvement alors que le gouvernement doit ouvrir des négociations mardi.
Merci Rémi Brancato, vous l'avez dit, le bras de fer continue donc entre le gouvernement et les syndicats. Reprise des discussions mardi dans le bureau de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Deux journées de mobilisation à l'appel des syndicats prévues la semaine prochaine également, jeudi et samedi. Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, appelle à amplifier la mobilisation pour que le gouvernement retire son projet. Côté trafic, eh bien, il sera toujours perturbé. Demain, la SNCF prévoyait 2 TGV sur 3, 1 Transilien sur 5, 2 Intercités sur 5. Idem à la RATP, perturbation toujours. Seules les lignes automatiques 1 et 14 vont fonctionner normalement demain. Conséquence du mouvement social contre la réforme des retraites, la faculté Victoire à Bordeaux, qui a été occupée presque tout le mois de décembre par des étudiants, restera fermée pendant plusieurs semaines à cause des dégradations importantes. Selon le président de l'université, décision contestée par les étudiants qui ont occupé le site. Ils dénoncent une décision politique. Les gilets jaunes également, dans la rue aujourd'hui, on l'a entendu, certains dans les cortèges contre la réforme des retraites, mais pas seulement. Rassemblement particulier à Toulon aujourd'hui contre les violences policières. Ce rassemblement intervient un an tout juste après cette vidéo où on voyait un commandant de policiers, Didier Andrieux, frapper un homme en pleine manifestation. Ce commandant n'a pas encore été entendu par le parquet de Toulon, chargé de l'enquête. En revanche, 3 gilets jaunes ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire dans ce dossier. Parmi eux, les frères Fabien et Laurent Attard. Cet après-midi, la famille Attard a posé une plaque sur les lieux des violences, rebaptisée symboliquement rue des lenteurs judiciaires. Frédéric Attard, le troisième frère, attend toujours des réponses de la justice.
Aucune nouvelle. On nous avait prévenu qu'une mise en examen était possible du commandant Andrieux. Suite à ça, donc c'était un vendredi soir, le lundi, comme par hasard, le juge Reboul, qui était pour une mise en examen du commandant Andrieux, avait été muté sur une autre juridiction. Depuis, strictement aucune nouvelle. Nous ne savons pas ce qui va se produire, quand mes frères passeront au tribunal et quelle sera la fin de cette affaire. On n'en sait rien du tout. Mes frères ont été entendus, les deux, Laurent et Fabien, par l'IGPN. Au niveau du commandant Andrieux, nous ne savons pas quelles sont, j'allais dire, les procédures judiciaires à son encontre. On ne sait rien.
Environ 200 gilets jaunes ont participé à ce rassemblement. Propos recueillis par Stevelan Chesi-Kozdovic de France Bleu Provence. Allez, on passe au sport maintenant. Choc du haut de tableau entre le Racing 92 et Clermont-Ferrand. C'est la grosse affiche de la 13e journée du top 14. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Mariam.
Et c'est le Racing 92 qui domine pour l'instant.
Oui, 8 points d'avance pour le Racing 92 face à Clermont alors qu'on est rentré dans le dernier quart d'heure de jeu, 27-19. Mais comme d'habitude, j'ai envie de dire depuis le début de la saison, eh bien le Racing joue un petit peu à se faire peur et cafouille son rugby en seconde période, même si là on a une superbe accélération de Teddy Thomas mais qui va filer en touche. En face, on a une équipe de Clermont eh bien, qui rivalise hein, d'une étonnante maladresse face à ce Racing Men. Ils ont eu l'occasion de revenir au score, mais malheureusement, eh bien, ils commettent beaucoup de fautes, ces Auvergnats, aujourd'hui. Et le Racing 92 est bien parti donc pour aller chercher une cinquième victoire d'affilée et enfin intégrer le fameux top 6, vous savez, les 6 premières places du classement qui permettent eh bien, de se qualifier pour les phases finales.
Merci Fanny Lechevestrier. Dans les autres résultats, Lyon a battu Agen 13-12. Autre match à suivre ce soir, toujours en rugby, le Stade Français, bon dernier de top 14, à l'occasion de confirmer sa bonne forme du moment avec la réception de Toulon. Ce sera ce soir à 21h. Football à suivre, les 32e de finale de la Coupe de France. Et déjà un exploit inédit dans cette compétition. Les Réunionnais de la JS Saint-Pierroise, club de 6e division, ont éliminé Niort Club de Ligue 2. Score final 2-1. Comme chaque samedi, maintenant c'est l'heure de la vie connectée. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir Mariam.
On commence l'année avec un cocktail d'humour et de bonne humeur. Vous êtes allé à la pêche sur YouTube et repérez les chaînes à suivre dans les mois qui viennent.
Bon, devinez qui je suis. Mais enfin, même si ton cœur est la bombe, il faut des bras qu'on m'aime. Je vois pas.
Ceci est un extrait d'une vidéo de la chaîne Just Elena et on voudrait que la comédienne belge Elena continue de nous faire rire encore en 2020. Lancée sur YouTube il y a 6 mois, j'espère vraiment qu'elle continuera à se moquer des injonctions infernales de la société, comme celle sur le sucre, et des morales parfois moisies des dessins animés de Disney.
Toi, tu vas mettre dans la tête de ton filleul qu'une femme, elle peut rêver, mais elle doit quand même se satisfaire d'un quotidien où elle fait le ménage avec des vêtements pourris.
Oui, non, mais non.
Oui, non, mais moi j'ai pris Cendrillon parce que je sais bien faire la voix des souris, en fait.
Quoi ? On peut la faire ! On peut la faire ! On peut la faire ! C'est pas sorcier d'être couture, rire quand on a la main.
Stop !
Just Elena endosse tous les codes des humoristes youtubeurs qui ont surfé sur le succès ces dernières années. Montage, enchaînement des répliques, mimiques, elle a tout pour continuer à nous plaire.
Et Christine, une deuxième chaîne vidéo assez inattendue a éveillé votre attention, c'est celle de Brigitte Lecordier avec un ton naïf tout à fait assumé.
Oui, à l'âge pivot des changements de vie, Brigitte Lecordier n'a pas choisi bénévolat et peinture sur soie. Au contraire, elle fait comme Squeezie et Cyprien, elle fait des vidéos et elle les fait bien.
Clap ! Salut, c'est Brigitte.
Brigitte Lecordier est comédienne, formée à l'art du clown chez les Fratellini et surtout, beaucoup la connaissent pour avoir été l'une des voix de la série animée Dragon Ball. On l'entend aussi dans les voix de Oui Oui ou dans des jeux vidéo. Ses fans des années 90 ou 2000 sont devenus aujourd'hui adultes. C'est le cas du youtubeur John Rachid ou du dessinateur et scénariste Balak. Et c'est ainsi que Brigitte se retrouve parfois à leur côté pour des collaborations sur YouTube.
Abonnez-vous à la chaîne de Brigitte et active la cloche et le pouce bleu et parle dans les commentaires et dis que Brigitte, elle est super. Tu dis juste, elle est super comme Dragon Ball. T'as vu, c'est drôle. Et du coup, voilà, plus vous faites de commentaires, plus elle monte dans les tendances. Et vu que Brigitte, elle est tendance, eh ben, on retombe sur nos pattes.
En juillet 2019, elle a monté sa propre chaîne avec, promet-elle, des jeux, des lectures, des reportages, des rencontres et une série qui s'appelle Allô, c'est Ninou, qui était anciennement diffusée sur Canal+, et dont elle a racheté les droits. Et quand Brigitte vous dit
« Bienvenue sur ma chaîne YouTube »,
elle est face caméra avec ses encyclopédies universalistes derrière elle, mises à jour comprises, et un dessin de Dragon Ball. Ça doit être ça, la magie d'Internet. Elle a déjà convaincu 247 000 abonnés en moins de 6 mois et son premier
« Salut, c'est Brigitte »
a été visionné par près de 800 000 personnes. YouTube visant plutôt les 18-35 ans, faut-il en conclure qu'à leur âge, les visiteurs de la plateforme sont de grands nostalgiques.
Merci Christine Siméon, ma vie connectée sur les youtubeurs qu'on aimerait bien voir en 2020. C'est à retrouver sur notre site internet franceinter.fr.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Et on regarde tout de suite la météo avec vous, Jean-Michel Golinski.
Demain, seul le Mistral et la Tramontane très turbulents vont donner une ambiance agitée sur le bassin méditerranéen. Avantage, ils vont garantir un ciel bien dégagé. Le soleil sera également généreux sur la Corse et sur tous les massifs, au-dessus de 800 mètres d'altitude. Par contre, sur le reste du pays, en particulier en plaine, les grisailles nombreuses en fin de nuit seront souvent tenaces et sans beaucoup d'évolution, avec en prime parfois de fines pluies par intermittence vers la Picardie, le Nord et le Pas-de-Calais. En fin de nuit, en dehors des côtes méditerranéennes, les températures vont généralement afficher 0 à 4 degrés, avec par conséquent pas mal de gelées blanches en campagne. Les valeurs de l'après-midi, bloquées entre 4 et 6 degrés sous les grisailles persistantes, atteindront comme aujourd'hui 14 à 16 dans le golfe du Lion, sur la Provence et la Corse.